Bonsoir. Bienvenue dans ce groupe de partage autour de l'unité, autour de la réalité de qui nous sommes vraiment. Voilà, nous sommes le lundi 7 mai 2012 et puis j'accueille par la même occasion les nombreux frères et sœurs qui par la suite écouteront l'enregistrement et qui sont dès à présent dans notre groupe. Voilà, je vais introduire en quelques phrases quelques directions pour la soirée. Ensuite, nous pourrons librement partager nos expériences diverses et variées que nous pourrons ensuite reprendre avec l'éclairage éventuel des enseignements non duels pour mettre de la lumière là où il y en a besoin, ou simplement pour partager des choses qui sont lumineuses, déjà lumineuses, pour étendre cette lumière à d'autres. Et puis j'ai choisi il y a quelques jours une phrase issue d'un cours en miracle, qui est une des leçons du cours, que je vais retrouver immédiatement. Une des dernières leçons, c'est la leçon 339, et elle est très courte, hein, elle dit: je recevrai tout ce que je demande. Voilà. Donc on pourra éventuellement partager là-dessus. Ça a l'air simple, mais en même temps, on peut en dire beaucoup à propos de cette petite phrase. Et puis je vais aussi lâcher le contrôle éventuel que je pourrais mettre sur le déroulement de cette soirée pour laisser l'esprit diriger, notre intuition, nos guides, être ceux qui mettent le contenu et la direction de cette soirée. Je vais le faire symboliquement avec 5 phrases qui sont issues d'un cours en miracle à la page 30 et qui disent tout simplement ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc aujourd'hui nous parlons autour de qui nous sommes vraiment. Mais ça peut impliquer de parler de qui nous ne sommes pas, c'est-à-dire de ce que nous vivons qui ne semble pas qui ne semble pas dans l'unité avec les diverses manifestations de l'ego. Donc on peut parler de l'amour humain et puis de son opposé sur Terre, la haine, hein, ou d'autres paires qui existent d'émotions dans la dualité. Tout ça a un sens, bien sûr. On peut parler du pardon christique, du pardon total, et l'opposé au pardon du monde. On peut parler de l'amour inconditionnel qui, lui, n'a pas d'opposé. Et comment nous pouvons nous entraîner à ça dans notre vie terrestre, à l'aide du pardon, justement. Là, nous pouvons parler des jugements divers et variés qui surviennent dans nos vies et de tout ce qu'ils entraînent comme distorsion chez nous. Voilà, et puis la phrase que je cite assez régulièrement pour introduire ces soirées, c'est une phrase que Jésus citait il y a 2000 ans, mais qui a été citée aussi lors de notre voyage en Israël par des enseignants kabbalistes sous une forme différente, mais qui veut dire exactement la même chose. Elle est juste accrochée là, sur le petit tableau carré, qui est à côté de la porte des toilettes. Ça vient de la ville de Tzfat, qui est dans le nord d'Israël, et qui est un haut lieu d'études mystiques et kabbalistiques, et dans lequel il y a des artistes qui mettent en tableau, en image, des enseignements sacrés. Donc c'est un verset qui est indiqué sous forme de texte circulaire, un verset de la Bible. Hein, c'est rien d'autre n'existe à part lui. Hein, c'est ça qui est écrit sur ce, et ça vient de la Torah. Donc, ce que Jésus disait il y a 2000 ans, c'est Dieu est. Hein, et en vérité, ces deux phrases sont identiques. Dieu est tout ce qui est. Et quand on dit Dieu est tout ce qui est, immédiatement, on peut en déduire que Dieu ne peut s'opposer à rien puisqu'il est tout. Il y a personne à qui s'opposer. Il y a pas une idée en face. Il y a pas un adversaire. Il y a pas un opposant. Donc Dieu forcément accueille tout puisqu'il est tout. Et dans notre expérience de dualité, il y a des tas de choses qui nous semblent difficiles. Dieu accueille aussi ces expériences comme faisant partie de lui-même. Et puisque ces expériences se passent dans une apparente multiplicité ou dualité, Dieu les accueille comme n'étant pas la réalité, puisque la réalité, c'est nous sommes un, et Dieu est un, et Dieu est tout ce qui est. Donc, cette apparente dualité ou cette multiplicité d'humains que nous connaissons sur Terre et ailleurs dans l'univers, elle est une sorte de rêve, une sorte d'imagination que nous avons comme un rêve collectif, qui dit, qui est la manifestation de que se passerait-il si nous n'étions pas divins. Hein, une idée que, d'après le courant miracle, le Fils de Dieu a eu et a voulu expérimenter. Donc ça a donné ce que nous connaissons. Mais comme Dieu est tout ce qui est, c'est impossible de générer autre chose à part Dieu. Alors nous avons imaginé ça, et c'est pour ça que Dieu accueille nos rêves, hein, Dieu accueille nos imaginations, et que ça c'est soigneusement orchestré pour que ça paraisse vrai, mais c'est quand même de l'imagination ce qui se passe dans ce monde, entre matière, temps, espace, monde, voilà, tout ce qui sort de cette question, tout ce qui fait réponse à cette question, que se passerait-il si nous n'étions pas divins, s'est présenté dans la non-dualité comme étant imaginé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ces corps, nous ne sommes pas limités, nous ne sommes pas dans le temps, nous ne sommes pas dans l'espace, en tant que notre nature profonde. Mais nous avons imaginé des limites pour vivre certaines expériences que nous avons souhaité vivre. Tout cela est bien notre volonté qui a été faite, qui a été accomplie, de pouvoir imaginer ce que ça donnerait si nous sortions de l'unité. Et comme dans l'unité, c'est pas possible de changer l'unité, de la morceler, alors nous avons comme fait un rêve dans lequel ça pouvait être possible. Et ce rêve a été autorisé, accueilli par Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens se posent la question pourquoi Dieu autorise les guerres, les cruautés, les crimes, etc. Parce que c'est imaginé et que ça ne se passe pas réellement. C'est la seule question qui peut être donnée. Et que la cruauté, la souffrance est imaginée. La souffrance n'est pas obligatoire, mais nous avons souhaité vivre une limite. Et donc nous avons imaginé aussi que cette limite s'assortissait de souffrance. Pourquoi avons-nous souhaité cette expérience? Ben, comme un poisson qui sort de l'eau pour se rendre compte que l'eau, c'est vraiment son habitat vital, indispensable, et qui se hâte d'y revenir parce que c'est là où est sa maison, là où il peut vraiment ressentir qu'il est vivant. Et puis nous sommes extraits de l'amour comme le poisson peut s'extraire de l'eau pour faire l'expérience de « je suis en dehors de l'eau » et pour ensuite replonger joyeusement dedans. Pour moi, ça me parle beaucoup, hein, ça. Nous faisons un voyage illusoire hors de l'amour, qui est sans temps et sans distance, pour joyeusement retrouver par nous-mêmes le chemin pour y retourner, sans aide extérieure. Voilà, donc bienvenue à tous les partages qui, quels qu'ils soient, se réduisent forcément à qui sommes-nous, se réduisent forcément à seul l'amour est, mais sous des formes parfois qui sont apparemment éloignées de ça. Donc notre rôle, c'est entre autres de ramener la lumière là où apparemment l'ombre est perçue, pour ramener une perception juste là où la perception est erronée, là où j'oublie ma vraie nature. Donc n'importe quel acte, événement de la vie quotidienne, ou même pensée, même anodin, est tout à fait pertinent et adéquat pour servir de point de départ d'un partage, d'une réflexion, d'un point de vue pour pouvoir élargir cette perception. J'ai parlé.
Cette leçon 339, je recevrai tout ce que je demande. Merci à vie de nous la proposer aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est une question qui nous habite tous, et il y a la question, il y a une partie en nous qui dit c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Quand je demande la guérison de mon frère ou de ma sœur, ou quand je demande de rencontrer un compagnon, une compagne, de sortir d'une ornière financière, finalement, eh ben, je vis pas ce que j'ai demandé. Et cette question, elle revient sans cesse. Dans les textes sacrés, il y a toujours « je répondrai avant même que tu aies ouvert la bouche, j'ai déjà répondu », et puis... Et quelque part, ça nous parle, c'est vrai. Et puis en même temps, on vit une réalité différente. Hein, et cette chose-là, alors on n'ose pas trop l'aborder, on dit « j'ai pas compris », ou « je suis pas un bon étudiant », ou « je suis pêcheur », ou « je suis pas... je me suis trompé, j'ai fait des choses que je devais pas faire ». Et arrive la culpabilité, l'impression que je suis indigne, pêcheur, pas à la hauteur, etc. Et beaucoup de religions d'ailleurs insistent là-dessus et renforcent ce sentiment de péché, d'être indigne, et d'avoir à atteindre un Dieu extérieur Alors qu'en fait, il n'y a pas d'extérieur, puisque Dieu est tout ce qui est. Il n'y a rien d'autre. Donc nous sommes cela. Nous sommes l'alpha, l'oméga. Et actuellement, là, en 2012, dans cette époque, nous sommes en train de nous réveiller à la réalité, à la non-dualité. Pourquoi est-ce que c'est si important? Encore une fois, on n'arrête pas ici de le dire, que ce soit chez Avi ou ailleurs. C'est qu'on est créateur, parce qu'on est qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes. Et donc, que je le veuille ou non, que j'y crois ou pas, Dieu est tout ce qui est, et donc il n'y a que Dieu, et Dieu est esprit, et l'esprit n'a aucune limite, et rien ne s'oppose à l'esprit que je suis et que nous sommes. Et donc quand la leçon du cours, par exemple, nous dit « je recevrai tout ce que je demande », il y a vraiment un gros point d'interrogation. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas ce que je demande? Et bien en fait, c'est parce qu'en fait, je ne me rends pas compte que ce que je demande, c'est pas ce que je crois demander. Parce que la leçon est bien claire, je recevrai tout ce que je demande. Et je vous propose de la regarder, comme disait Avi, cette leçon, elle est très courte. Et voici ce qu'elle dit. Nul ne désire la douleur, d'accord, personne ne désire la douleur, on est d'accord, hein. Personne n'a envie de connaître la douleur. Il est impossible d'imaginer un être qui souhaite être malheureux, il est évident. Donc ce qui est, ce qui est la vie, n'a aucune envie de connaître la douleur, la solitude, le manque, etc. C'est évident. Donc on dit nul, personne ne désire la douleur. Mais il peut penser, alors on va changer un peu cette traduction qui est un peu lourde, mais on peut penser que la douleur est plaisir. Donc je reprends, personne ne désire la douleur, mais on peut penser que la douleur est plaisir. Personne ne tournerait le dos à son bonheur, bien sûr, mais on peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Et c'est là que ça commence. On peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Et la leçon poursuit, chacun recevra ce qu'il demande. Mais il se peut qu'on se méprenne sur ce que l'on veut, sur l'état qu'on voudrait atteindre. Alors, que peut-on demander ? Que l'on veut recevoir. Eh bien, en fait, on a demandé ce qui nous effraiera et nous apportera de la souffrance. Voilà. On a demandé ce qui va nous effrayer et nous apporter de la souffrance. Et c'est pour ça qu'on ne le reçoit pas. Parce que notre être profond, puisqu'il n'y a que Dieu, il n'y a que qui nous sommes, ne nous donne pas ce dont nous ne voulons pas. L'être que nous sommes, le divin que nous sommes, la lumière que nous sommes, il n'y a rien d'autre, ne veut que notre bonheur. Et donc, ne nous donne pas l'ego, ne nous donne pas l'illusion. On peut l'imaginer, mais c'est imaginé, c'est pas réel. Donc, quand on dit « je recevrai tout ce que je demande », ça veut dire « je recevrai tout ce que vraiment je veux vraiment ». Alors on peut dire « mais puisque je suis tout, Dieu est tout, donc je l'ai ce que je demande ». Oui, c'est vrai, je l'ai. Mais j'imagine ne pas l'avoir. Donc nous sommes en dichotomie, sans cesse. Nous vivons dans deux mondes qui sont totalement incompatibles. Et c'est là notre expérience humaine. La réalité que nous sommes, le divin que nous sommes, un, infini, et puis ces expériences de dualité où finalement, tôt ou tard, c'est la souffrance qui arrive. La séparation implique l'attaque, la défense, le besoin d'être protégé, la sensation de manque, de n'être pas à la hauteur, d'être indigne, d'avoir peur, peur du futur, de se sentir coupable par rapport à un passé imaginé. Et ça, c'est souffrance. Et c'est pas ce que nous voulons vraiment. Et donc, l'esprit que nous sommes, Dieu, on peut dire, la vie, son profond désir, parce que la vie c'est nous, c'est de nous donner ce que nous voulons, et ce que nous voulons, ben, c'est retrouver qui nous sommes. Comme disait tout à l'heure Avi en prenant l'image du poisson, c'est retrouver l'eau d'où nous sommes sortis pour faire une expérience de non-amour, qui est impossible. C'est pas impossible. Et quand on nous demande un compagnon qui va me sauver, une compagne qui va me sauver, de l'argent qui va me sauver, d'être connu par le monde, d'avoir du succès, de prolonger la vie du corps, que je ne suis pas, je ne cesse, comme dit le courant miracle, pour essayer de faire le ciel, je ne cesse d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Et c'est pas ce que mon âme profonde veut. Donc je reçois toujours ce que je demande, mais ma demande, elle n'est pas ce que je crois. Et quand je veux gagner au loto, quand je veux avoir une relation, quand je veux que telle personne me reconnaisse, quand je veux l'amour de mes parents, l'amour de mes enfants, la reconnaissance de la société, être célèbre, etc., avoir l'impression d'avoir un peu de valeur par ce que je fais, c'est pas ce que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment, c'est retrouver qui je suis. Parce que si je crois que je vais avoir un peu de valeur parce qu'on va me reconnaître dans le monde, parce que je vais écrire des livres, parce que je vais faire un certain travail, et qu'il va y avoir une certaine reconnaissance, et puis que je vais laisser une trace, et puis que je vais avoir peut-être une plaque sur les rues de la ville, etc., tout ça, c'est de l'ego, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ce que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment, c'est le seul but de l'incarnation humaine, c'est retrouver qui je suis. C'est retrouver qui je suis et qui nous sommes. C'est pour ça que le courant miracle dit dans son courte introduction, ce cours ne vise pas à enseigner l'amour qui est bien au-delà de ce qui peut s'enseigner. En revanche, il vise à enlever ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour. Pourquoi c'est si important? Parce que quand j'ai conscience de la présence de l'amour, je vois que je suis à l'amour, je le ressens, je l'expérimente. Et c'est un bonheur incroyable. Ça n'a rien à voir avec gagner au loto, avoir la reconnaissance de quelqu'un, ou même avoir une position sur cette planète, comme d'être président, directeur de haute société, etc., chef religieux, ça n'a rien à voir. Retrouver qui je suis, que je suis l'infini, perfection divine, puisque Dieu est tout ce qui est, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est ça le but que nous avons tous dans cette incarnation. Je parle des 7 milliards que nous sommes ici, sur cette planète, sans aucune exception, bien évidemment. Donc je recevrai tout ce que je demande, et qu'est-ce que dit la leçon? Eh bien, la leçon dit, on a demandé ce qui va nous effrayer et nous apporter de la souffrance. Alors la leçon poursuit, soyons donc résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement, et seulement cela, afin que nous passions cette journée sans peur et sans confondre la douleur avec la joie, ni la peur avec l'amour. Et effectivement, comme dit le cours en miracle, on n'a que deux émotions, l'amour et la peur. Et le cours ajoute, une émotion, c'est celle qui t'a été donnée, qui nous a été donnée lors de notre création, c'est-à-dire que la création, c'est l'extension, donc ça c'est donné maintenant, c'est qui nous sommes, c'est un don perpétuel, c'est comme la vie qui se donne elle-même à elle-même, et elle est qu'amour. Donc cet amour, il nous est donné en permanence, il n'y a que ça de réel. Et le cours nous dit ça, ça nous a été donné lors de notre création. Le cours utilise le passé, il nous a été donné. C'est didactique, en fait il n'y a pas de passé, mais ça nous aide à comprendre ici dans notre dualité et dans notre impression de vivre un temps linéaire. Donc nous avons deux émotions, l'amour, en fait l'amour c'est la seule réalité, mais dans ce monde duel, on considère qu'on a deux émotions, l'amour et la peur. L'amour qui nous est donné lors de notre création, l'amour c'est ce que nous sommes, et la peur que nous avons imaginée, c'est-à-dire fabriquée, mais qui n'existe pas, elle est illusoire. Mais c'est très bien imaginé, et donc ça nous paraît tout à fait réel. C'est pour ça qu'on est là à travailler, c'est pour ça que ça nous paraît si difficile, parce que cette peur, elle nous colle, c'est une habitude la peur. Elle vient d'ignorance, elle vient de l'oubli de qui nous sommes. C'est tout. Ça n'a rien de mal, ça n'a rien de... Simplement, ça vient d'une ignorance et de cette expérience que nous avons choisie. Nous amuser à la séparation. C'est tout. Et on est tous ici à la même enseigne. Quand on vient s'incarner, on ne peut pas s'incarner sans ego. ça suppose effectivement la croyance à la séparation. Ce jeu, cette pièce de théâtre. Et la leçon poursuit avec se termine une petite prière de trois lignes qui est la suivante. Père, ceci est la journée. Père, ceci est ta journée. C'est une journée où je ne voudrais rien faire par moi-même. En fait, c'est une journée où je ne veux rien faire par moi-même, mais simplement entendre ta voix dans tout ce que je fais. Et ne demander que ce que tu m'offres, en acceptant que les pensées que tu partages avec moi. Et souvent, le cours nous dit, je vais penser avec Dieu. C'est-à-dire, en penser avec Dieu, c'est penser avec mon être réel, avec qui je suis vraiment. Parce qu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Et cela, c'est un bonheur infini, c'est la joie infinie, c'est la lumière. Mais c'est ça qu'on veut retrouver. Donc, cette leçon, je recevrai tout ce que je demande. Il est important de commencer à clarifier ce que je demande et de cesser d'être en conflit. Je veux ceci, mais j'en ai peur. Je veux de l'argent, mais j'en veux pas, parce que c'est pas bien. Si je critique quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui apparemment est riche avec de l'argent, si je critique la manière dont il utilise l'argent, c'est quelque chose que j'ai en moi, que je projette à l'extérieur, que je veux pas voir. C'est une critique et une peur que j'ai en moi. Mais quand j'arrive à un état amoureux de l'instant présent, quand j'arrive à l'amour inconditionnel de tous mes frères et sœurs, de ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire l'amour et rien d'autre. Ce que le cours appelle, on va dire le Christ, c'est une façon de parler. Quand j'arrive à cette vision, c'est ce qu'on appelle le pardon. Et le pardon, c'est, il n'y a rien à pardonner, il n'y a que la lumière, il n'y a que qui nous sommes. Donc ce que je veux vraiment, c'est voir cela. Et donc je demande à l'esprit que je suis, mais temporairement, je veux dire, je vais m'adresser au Père, je vais m'adresser à Jésus, au Saint-Esprit, ou à qui vous voulez, ou en disant, montre-moi ta vision. Mais en fait, comme Dieu est tout ce qui est, quelque part, je le demande à moi-même et avec un M majuscule à qui je suis. Voilà. Donc, je recevrai tout ce que je demande, parce qu'en fait, qui va me le donner ? Qui je suis ? Et il ne peut me donner ce qui est joie, que ce qui est réel. Que ce qui est réel. C'est pour ça que Jésus nous disait, n'investissez dans ce qui n'est pas périssable. Mais c'est périssable où ? Mais en esprit. C'est pour ça que le courant miracle dit la guérison est en esprit. La guérison est de l'esprit. Ma vision est en esprit. C'est là que s'est produite la séparation, l'illusion de séparation. C'est pas réel. Et quand nous retrouvons la vision que tout est un, c'est un bonheur incroyable, qui n'a rien à voir avec gagner l'auto ou trouver un compagnon ou une compagne qui va sembler me compléter. C'est toujours une illusion, ça. Ça ne signifie pas que quand c'est l'heure de gagner l'auto, de trouver un compagnon ou une compagne, mais en amour inconditionnel, comme simplement un don de la vie, comme quelque chose qui peut me permettre encore d'exprimer davantage d'amour ici, dans cette incarnation humaine, sur cette planète. Bien sûr que c'est honoré et que c'est accueilli avec bonheur. Un gain de loto, trouver quelqu'un, avoir de nouveaux amis, un nouveau job, d'avoir n'importe quelle situation, de faire un repas avec quelqu'un, d'avoir une relation amoureuse, sexuelle ou autre. Tout ça, c'est évidemment accueilli, ça fait partie du jeu de la vie ici sur cette planète. Mais ce qui est important, ce n'est pas la forme elle-même, c'est la manière dont je le vis. Et donc je recevrai tout ce que je demande, mais je commence à clarifier ma demande et dire, mais je veux vraiment ce qui est vrai. Je veux vraiment une nouvelle vision intérieure. Je veux cette paix. Et je ne suis pas victime du monde que je vois. Donc j'accueille ce monde comme un monde d'abondance, de plénitude, où tout est possible, je recevrai ce que je demande. Je reçois ce que je demande vraiment. et je suis en train de clarifier ma demande, c'est vrai que ça demande par moment, ça peut faire un peu peur, c'est pas nier. Parce que je m'accroche encore, je pourrais m'accrocher, nous pouvons nous accrocher les uns les autres, à ce besoin d'être sécurisé par des formes. Ça n'a rien de mal. Et justement, j'accueille cela. J'accueille le fait que j'ai besoin de me sécuriser par des formes. Et c'est le fait de l'accueillir, c'est-à-dire quand j'accueille, j'aime. Cet accueil amoureux du petit enfant intérieur que je suis, qui a peur, qui a besoin de se sécuriser, c'est là qu'effectivement il y a guérison. Et donc on accueille son ego, ses fausses croyances, ces demandes qui sont illusoires que nous faisons, on les accueille, oui d'accord. Et quand je demande la guérison d'un ami, quand je demande à telle forme d'avoir un dénouement heureux, c'est ok, j'accueille ça. Mais je sais que c'est comme quelque chose de temporaire qui est donné selon l'esprit qui choisit les manifestations physiques dans un jeu parfaitement guidé par l'esprit. Comme dit la leçon 135, cette phrase, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un U majuscule, par l'un, par lui, par l'esprit, dont le seul but est ton bien, et le bien de tous. Ce qui fait que tout ce qui se passe, c'est évidemment donné exactement pour le meilleur de nos intérêts. Et le cours nous dit, tu ne sais pas pourquoi sont faites les choses. En fait, toutes les choses sont faites pour le meilleur de tes intérêts. Quel est le meilleur de mes intérêts? C'est pas de gagner au loto, d'avoir une relation, ou d'avoir ceci, cela dans la forme. Le meilleur de mes intérêts, c'est le réveil à qui je suis. Parce que ça, c'est incroyablement magnifique. Et ça n'a rien à voir avec les petites attractions du monde, les petites illusions qui, tôt ou tard, amènent de la souffrance. Comme disent les orientaux, la vie est souffrance, c'est ce qu'ils veulent dire. En fait, la vie n'est que joie, n'est que bonheur. Mais la vie avec une vision d'ego est souffrance, c'est tout. Mais l'ego n'existe pas, c'est une vision fausse. Alors je recevrai ce que je demande. Et je commence à comprendre que je veux vraiment me réveiller, je veux vraiment voir avant toute chose, comme dit le cours en miracle, avant tout je veux voir les choses différemment. Avant tout je veux voir la vérité et je dis non à l'illusion. Parce que cette illusion n'apporte que souffrance, culpabilité, peur et aucun être n'a envie de ça, c'est évident. Donc je choisis pour moi-même, et également forcément pour mes frères et sœurs, puisque nous sommes un, je choisis la vérité, je choisis l'amour et non la peur. Je recevrai ce que je demande, je reçois ce que je demande, je commence à comprendre que ce que je demande, c'est également ce que tous mes frères et sœurs demandent. Et nous avons une volonté une, c'est pour ça que le cours en miracle nous dit, la volonté de Dieu, ta volonté et celle de tes frères et sœurs, sont une, parce qu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Je recevrai ce que je demande, et je peux dire, je reçois toujours ce que je demande en vérité. Et quand j'ai l'impression de ne pas recevoir ce que je demande, c'est parce que ma demande est fausse et ne sert pas le meilleur de mes intérêts. C'est une leçon pas facile, c'est vrai. Eh bien, nous sommes tous dessus. Et les mots que nous partageons à ce sujet maintenant, eh bien, nous aident tous. Je reçois toujours ce que je demande.
Alors, moi, je suis guidé à parler de la paix. Alors, la paix intérieure, hein, la paix qui peut être ressentie parfois de manière fugace, parfois de manière plus prolongée. Et aussi des moments parfois très subtils qui peuvent nous faire sortir de la paix, de cette paix. Pourquoi cette paix, lorsqu'elle est ressentie, comme il n'y a rien besoin de changer, tout est absolument parfait maintenant, chaque chose que je fais est juste, et je peux tout prévoir d'une manière très tranquille, où je médite, où je suis à l'aube, et je vois le soleil se lever, où je vois le soleil se coucher, et quelque chose comme une profonde harmonie qui est ressentie avec tout ce qui m'environne, y compris des éléments de la nature, les oiseaux, les arbres, le soleil, la lune. Pourquoi tous ces éléments interagissent avec nous et peuvent nous aider à trouver la paix? Parce qu'ils sont les reflets de notre unité, hein, tout ce qui est nature, les paysages, la terre, tout entière, dans sa beauté, dans sa complexité, le règne animal, le règne minéral, sont des reflets de notre unité. Et lorsque nous pouvons simplement entendre leur message tranquille, mais cette tranquillité-là peut nous gagner. Et notre agitation intérieure qui nous coupe de la paix, de notre paix, ben, peut se calmer un petit peu. Et c'est intéressant de voir dans le monde de la dualité qu'est-ce qui me connecte à la paix et qu'est-ce qui peut m'en faire sortir. Alors, une des manières très fréquentes de sortir de la paix, c'est de juger. Ah oui, ce qu'il a dit, c'est nul. Sarkozy, t'es viré. Rentre chez toi, fais ta valise. Voilà, puis ma fille m'écrivait, oh, il y a les fascistes qui rentrent au Parlement, en Grèce, c'est affreux, diffusez ça à tout le monde. Voilà, alors, moi ce qui m'aide beaucoup, c'est Dieu accueille tout. Si je veux être en paix, ben Dieu est une parfaite image de la paix, puisque Dieu ne juge rien, puisqu'il accueille tout, et Dieu est toujours en paix, et Dieu est toujours dans l'amour. Paix et amour sont indissociables, comme liberté et amour sont indissociables. Donc je vois que mon rôle sur Terre, c'est de, ben comme dit la Bible, d'être à l'image de Dieu. Hein. Dieu a fait l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est accueillir inconditionnellement et être en paix tout le temps. Et c'est une paix qui n'est pas modifiable, qui n'évolue pas. Dieu n'évolue pas. Dieu est dans une paix stable et dans un amour stable. Et nous sommes un peu comme les émissaires de Dieu venus explorer le monde de autre chose que la paix, le monde de autre chose que l'amour. Et en soi, ce n'est ni bien ni mal. C'est une expérience que nous avons voulu tenter. Nous avons voulu sortir de l'amour pour voir ce que c'est que l'amour quand on n'est pas dedans. C'est-à-dire de voir l'amour en face, plutôt que d'avoir l'amour tout autour. Alors bien sûr, c'est impossible, mais avec notre esprit divin, nous avons quand même réussi à le faire en l'imaginant. Parce que notre pensée est créatrice, elle est honorée. Et donc, c'est réussi. Hein. Nous avons réussi à voir ce que c'est que le non-amour Et surtout que lorsque je suis depuis un certain temps dans un monde de non-amour, j'ai une envie pressante de retrouver la paix, l'amour, l'harmonie, la liberté, la joie, voilà, tous ces états-là, hein, que je différencie de sentiments, hein, ou d'émotions, parce que l'amour avec un grand A n'est pas une émotion, c'est un état. Hein, c'est pas quelque chose qui est mouvant, hein, une émotion, ça bouge, ça fluctue. Et un état, c'est stable. Cette paix aussi, si on met un P majuscule, c'est un état. Et puis, si on met un P minuscule, ben, c'est opposé à la guerre. Et la guerre, en particulier, c'est la guerre intérieure qui est aussi, qui se projette à l'extérieur avec les conflits, hein, entre personnes, entre pays, dans le monde, etc. Donc cette paix-là, elle a un opposé, hein, alors que la paix en tant qu'État, c'est intimement une nature, hein, ça ne bouge pas. Et dans cette paix-là, il y a une félicité, il y a un amour, c'est loin d'être neutre, c'est loin de me laisser indifférent. C'est pas parce que ça ne bouge pas que c'est pas ressenti comme une joie énorme. Et la joie n'est pas non plus un sentiment, puisque cette joie-là, lorsqu'elle est là, je ne peux pas la simuler. Hein. Je suis joyeux ou je ne suis pas joyeux. Je constate que c'est là. C'est pas quelque chose qui est de nature fluctuante. Hein. Je suis dans un état joyeux. Je peux pas fabriquer la joie. Ça me parle bien des sentiments qui sont vrais, des états qui sont vrais. Alors bien sûr, pour nous, ça peut être un sentiment parce que pour nous, la joie est fluctuante. Il y a des moments où je le suis pas, puis il y a des moments où je le suis. Il y a des moments où je n'aime pas et des moments où j'aime. Il y a des moments où je suis en paix et des moments où je suis en guerre. Avec moi-même, quand je suis mon propre bourreau, en m'auto-critiquant, en disant « t'aurais pu mieux faire, vraiment là, t'as pas été à la hauteur, t'es nul, je suis le bourreau le plus impitoyable pour moi-même, souvent, hein, jusqu'à ce que je décide autrement en tout cas. » Et le jugement, c'est bien ce qui peut représenter ce qui me fait sortir de ma paix. Hein, quand je dis, en résumé, cela ne devrait pas être, je commence à créer autre chose que ce qui est. Alors, bien sûr, ce qui est, ce qui se déroule dans notre monde, ça n'a pas de vraie réalité, même si nous le ressentons, nous le percevons physiquement, par nos sens. Voilà, nous sommes comme les explorateurs de Dieu. C'est quoi les explorateurs de Dieu? C'est à travers nos cinq sens, nous captons plein d'informations dans ce monde que nous avons imaginé. Et puis, des informations que Dieu ne capte pas, puisque Dieu est 100% amour. Donc nous sommes comme des messagers d'état de conscience qui n'existent pas dans l'unité. Nous fournissons une sorte de feedback, hein, sur ce que c'est que le non-amour. Et le jugement, ça me paraît très important. Ça me paraît très important comme élément susceptible de me déconnecter de la paix qu'à un moment ou à un autre je ressens. Hein, si je médite pendant une demi-heure, je peux ou pas être dans une paix plus ancrée, plus profonde. Si je vais m'asseoir, comme on l'a fait récemment en Israël, dans des lieux vibratoires, dans des lieux saints, dans des lieux qui sont aussi chargés historiquement d'énergie, et bien là, je peux progressivement laisser tout ce qui est agité dans mon esprit se calmer. Donc s'asseoir simplement et puis commencer à observer, c'est un bon début pour laisser l'agitation se reposer, comme lorsque je jette un caillou dans un lac. Ben, si j'en jette pas un deuxième, au bout d'un moment, ben, le lac redevient calme. Donc ne pas juger, c'est arrêter de jeter des cailloux. Et jeter des cailloux, c'est condamner qui que ce soit, porter un jugement, qui que ce soit, même s'il est positif, hein, le jugement. Le jugement positif, il peut être aussi subtil et aussi de nature à me couper de la paix que le jugement négatif. Quand j'encense quelqu'un, quand je dis ouais, il est extraordinaire, c'est un jugement positif, mais moi, pauvre de moi, je ne suis pas à la hauteur de cet homme-là, ou de ce saint, ou de Dieu, ou de Jésus. Je ne suis qu'un pauvre humain, pauvre de moi, et là, j'ai créé un jugement, une comparaison, et je me situe ailleurs. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité non plus. Il n'y a pas de liberté. Hein, et là, voilà, on est en France. Hein. Liberté, égalité, fraternité. Je trouve cette devise extrêmement puissante. Parce qu'elle est profondément non-duelle pour moi. Et elle a beau être commune, elle a beau être écrite partout. Elle est loin d'être vécue dans notre monde, y compris en France. Et pourtant, elle porte des vibrations fortes. Donc, voilà, à quel moment j'accepte de porter un jugement? À quel moment ma peine n'est plus la seule chose que je vis et je me crois obligé de jeter un caillou dans l'étang de ma conscience pour faire des vagues de jugement? Alors ça peut provenir d'une certaine culpabilité que moi j'appelle originelle, hein, et certains parlent du péché originel, certainement c'est relié, même s'il n'y a pas eu de péché, hein, mais dans mon esprit il peut y avoir eu l'impression d'avoir fauté parce que j'ai inventé la séparation. Je me suis coupé de Dieu volontairement en fabriquant un monde sans amour, un monde non issu de l'amour, non, qui n'a pas l'amour comme fondation, dans lequel je peux aussi retrouver l'amour, mais ça me demande des étapes successives d'élévation de conscience. Donc le moment où le jugement arrive est fondamental, et pour moi il est c'est vraiment la partie de ma vie où je peux dire il y a un avant et un après, quand j'ai pu observer le moment où le jugement arrive. Au moment où je me sors moi-même de ma paix avec une pensée d'attaque envers quelqu'un. Et comme la guérison est de l'esprit, si j'ai un esprit qui est en paix, et que j'ai une pensée d'attaque, tout se passe dans mon esprit. C'est-à-dire que j'ai imaginé que je pouvais sortir de la paix à cause de pensées qui font que celui-ci a mal fait, donc j'ai inventé le contraire de l'amour. Hein. J'ai, là où l'amour est le bien sans opposé, j'ai inventé l'amour conditionnel, qui est le bien avec opposé. C'est-à-dire qu'il a mal fait. Il n'aurait pas dû dire cette phrase. Les néo-nazis n'auraient pas dû entrer au Parlement grec. Parce que ça va être abominable, hein, ce qui va se passer en Grèce. Donc j'ai inventé des pensées d'attaque dans mon esprit. Et ainsi, je continue la séparation qui est le fondement de ce monde. Et l'instant où je l'ai choisi, ces pensées, à l'instant, à la microseconde d'avant, j'ai le choix de rester dans la paix. J'ai le choix de garder ce caillou dans ma main et de ne pas le jeter dans l'étang de ma conscience. J'ai le choix de dire pourquoi je ferais ça. Il n'y a aucune raison. Si je veux rester dans ma pêche, je garde le caillou dans ma main, ou je le repose tranquillement près de moi. Je ne le jette pas. Alors les pensées d'attaque peuvent être très subtiles. Je vois une personne, je dis « Ah, trop grosse, ah, trop maigre, ah, elle pense pas comme moi, ah, ce qu'elle dit n'est pas aligné. » Voilà. Chaque seconde, il peut y avoir des centaines de jugements qui défilent en moi. Ou alors, je me sens pas à la hauteur vis-à-vis de cette personne. Je me compare et à ce moment-là, j'ai besoin de la mettre à distance pour avoir une apparente sécurité ou d'essayer d'être supérieur. Et j'attaque. Pour ça, j'attaque. Donc, il y a une belle leçon du cours qui dit « Je pourrais choisir la paix au lieu de cela. » Au lieu de quoi ? Au lieu de l'attaque, au lieu des pensées de séparation. Et ça demande un entraînement, et l'entraînement, c'est à quel moment arrive la pensée d'attaque, et à quel moment je peux dire « Tiens, j'ai choisi ça. Est-ce que je pourrais choisir autre chose là, maintenant ? Est-ce que ça me plaît d'abord d'avoir choisi ça ? Et si je prends le temps d'analyser si ça me plaît vraiment, c'est-à-dire depuis l'état de la paix, celui qui n'est pas encore perturbé, alors cette petite micro-pause que je fais peut me sauver de cette pensée qui voudrait m'en extraire. Et Yeshua dit ça dans la voie de la maîtrise par Jayem, là, qui est en anglais pour le moment. Je bénis le traducteur qui voudra traduire ça, parce que c'est une œuvre magnifique, vraiment extraordinaire. Et Yeshua dit à un moment donné, dans le ciel bleu de ma conscience, tout d'un coup est passé le nuage noir de ma colère. Est-ce que j'ai envie de ça ? Non. Bon, ben, je vais choisir autre chose. Voilà, et puis il parle souvent de jeter des galets dans les temps de notre conscience. À propos du fait que dès que j'émets un jugement, dans cet étang de ma conscience, les vagues peuvent se diffuser et atteindre tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont toute l'humanité même. Puisque nous ne sommes pas séparés, donc les pensées que j'ai sont aussi ont des effets. Hein, y a un inconscient collectif qui fait que ces pensées-là nous relient aussi, même si nous sommes reliés dans l'unité et dans l'amour absolu. Donc le moment où je vois le nuage noir se pointer, c'est encore le moment où je peux choisir autre chose. Mais encore faut-il voir le nuage noir arriver. Et c'est là où la qualité de témoin est essentielle et la qualité d'observateur ou d'observatrice est essentielle. Que je ne m'étonne pas si je juge que je vois un monde en guerre. Hein, puisque mes pensées sont créatrices, je crée un conflit, d'abord en moi parce que je m'écarte de ma paix, donc je trouve quelque chose qui s'oppose à ma paix en moi, donc il y a conflit en moi. Et dès que j'émets une pensée d'attaque, eh ben je déclare la guerre à l'autre, même si je ne dis pas un mot. Puisque mes pensées ont des effets, hein, assurément, et de plus en plus dans cette époque, hein, où les vibrations sont fortes, et donc les choses ont un effet beaucoup plus rapproché que dans les années précédentes. Donc j'émets une pensée d'attaque, je déclare un conflit intérieur, je déclare un conflit extérieur, et par extension, je vois la guerre dans le monde tout entier. C'est impossible de voir un monde en guerre si je suis intérieurement en paix. Parce que si je suis en paix, mon esprit ne peut pas voir autre chose que la paix. Pour certains, c'est difficile à comprendre, hein, cette phrase. Mais c'est pas ce que je fais qui est important, mais comment je le fais, c'est-à-dire l'état d'esprit. Je peux faire une action, par exemple donner un euro à un mendiant avec mépris, sans aucune fraternité, et je peux donner un euro ou un sourire même à un mendiant avec une immense compassion, gratitude, amour. Donc c'est pas l'acte qui est important, l'acte est le support neutre de mon attitude et de mon état d'esprit. C'est pour ça que la guerre, c'est la résultante, la guerre du monde, la guerre n'importe où dans le monde, avec les armes, c'est simplement la conséquence d'un inconscient collectif qui est en guerre, qui est avec des pensées de guerre démultipliées, qui finalement arrive à influencer des structures qui sont des super-égos, comme les États, les pays. Et un pays par rapport à un autre qui est en guerre, bah c'est moi je suis supérieur à toi et moi je veux t'attaquer. Mais c'est exactement le mécanisme de l'ego, mais à l'échelle d'une nation. Donc la paix, elle commence en moi. Et la paix, elle commence en étant extrêmement vigilant à tout ce qui peut me faire sortir de la paix. Alors c'est quoi être extrêmement vigilant ? Krishnamurti parlait de la vigilance, de l'état d'extrême présence, en disant, imaginez qu'il y a un serpent venimeux dans la pièce. Vous êtes vigilant au point que vous ne pouvez pas le quitter des yeux une seule seconde. Si vous le quittez des yeux une seule seconde, vous pouvez être mort. C'est être présent tout le temps. Voilà. Alors, cet état de vigilance, je peux l'avoir aussi avec mes pensées. Et je peux, comme si le jugement, c'était le serpent venimeux. C'était celui qui, si je n'y prête pas garde, va attaquer. Et le serpent, c'est pas pour rien que c'est le symbole aussi de la tentation de Adam et Ève, de l'enfer. Ces pensées-là, comme disait Sylvain, créent l'enfer. Hein, si je veux être en paix mais que je ne surveille pas mes pensées, au lieu de créer le ciel, je crée l'enfer. Parce que je laisse mes pensées sans être vigilant avec ce que mon ego peut synthétiser comme pensée d'attaque. Donc le moment où j'attaque... que je me rende compte que j'ai choisi d'attaquer. À partir du moment où je me rends compte que j'ai choisi d'attaquer, pour des raisons qui sont miennes, qui sont variées, diverses, qui peuvent avoir trait à cette culpabilité originelle, hein. Je me suis séparé de Dieu, oh là là, j'ai fait une bêtise, Dieu va me punir, Dieu va m'en vouloir, alors que Dieu est pur amour, et que Dieu accueille mon rêve, les bras grands ouverts, que ça n'a aucune importance. Je peux rêver de ci ou de ça ou de quoi que ce soit. Je serai toujours aimé de Dieu. Pur amour. Donc lorsque j'attaque, c'est une manière d'évacuer cette culpabilité qui est très souvent inconsciente en la projetant sur l'autre. Hein, j'en veux pas parce qu'elle m'est inconfortable. Moi, j'ai envie de la jeter, de l'éliminer. Et donc, le premier qui passe, c'est un écran qui, pour moi, est le réceptacle de cette culpabilité. C'est ça l'attaque. Je veux pas de la culpabilité. Tiens, est-ce que tu la veux, toi ? Et bien sûr, l'autre n'en veut pas non plus, et puis il me la renvoie, sous forme de jugement, d'attaque, etc. Donc la guérison, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de culpabilité, parce qu'il ne s'est rien passé, je n'ai pas quitté la maison de Dieu, J'y suis toujours, j'ai rêvé un instant, et la seule chose qui me caractérise, c'est l'innocence absolue. Voilà. Et pour certains, ça demande un entraînement. Et l'entraînement, c'est aussi le pardon total, le pardon de Dieu, hein, celui qui constate que il n'y a rien à pardonner puisque nous sommes un et qu'il ne s'est rien passé, à part notre rêve qui n'a pas de réalité, il ne s'est rien passé. Donc je pars du jugement, je l'observe, je vois la pensée d'attaque se profiler, je me rappelle que j'ai le choix, je me rappelle que je joue un jeu dans lequel j'ai un rôle et je suis parfaitement innocent dans ce rôle, y compris si je suis un kamikaze qui porte une ceinture d'explosifs, parce que c'est un rôle que j'ai choisi de jouer, et donc je suis parfaitement innocent parce que ça ne se passe pas, c'est ça la véritable innocence. Et donc il n'y a aucune culpabilité à projeter. Mais simplement, si je peux arrêter l'acte violent ou l'acte qui juge ou la pensée qui juge avant qu'elle s'exprime, eh bien, je peux plus ancrer cette innocence en moi, cette paix en moi, qui va de pair avec l'innocence. Plus je cultive ma paix en ne donnant pas de carburant aux pensées d'attaque, et plus je peux me rappeler que je suis en train de rêver. C'est pas une formule magique, hein, c'est un entraînement de chaque jour. Tiens, là, le commentateur, j'aime pas le parti pris qu'il prend pour tel candidat. Hein. Moi, je pense pas comme lui. Il devrait penser autrement. Il devrait ne pas dire telle phrase, hein, par exemple. Il devrait ne pas orienter le débat. Il devrait. Voilà, je cherche à modifier le cours des choses. Et bien, une phrase qui m'aide et que je dis souvent lorsque je présente les méditations du mercredi soir, quand il y a quelque chose qui se passe dans la pièce et que je suis en train de méditer, ben j'essaie de ne pas m'opposer au fait que ça se soit passé. Et la phrase que je dis, c'est « cela est ». Cela est, ça veut dire ce n'est ni bien ni mal. Ça se passe, je le constate. Quand je le constate, je ne sors pas de ma paix. Quand je dis, oh mince, j'étais en paix, puis voilà ce bruit qui arrive, il a tout gâché. Là, je commence à qualifier l'événement, à juger l'événement. C'est pareil, pour n'importe quoi dans ma vie, dès que je mets un jugement, je sors de ma paix. Et ensuite, que je ne m'étonne pas que j'ai perdu la paix, c'est-à-dire que je suis dans un état agité. J'ai relancé un caillou dans le lac. Donc, ça n'a pas d'importance de jeter des cailloux dans le lac, on le fait tous. Ce qui est important, c'est de constater qu'on le fait. Et à quel moment on le fait. Et à certains moments, de garder le caillou dans la main. En disant, ah ben tiens, je ne suis plus victime de mes jugements. Je suis responsable de mes jugements. Et j'ai le choix de ne pas juger maintenant. Donc celui-là, exceptionnellement, je ne vais pas le laisser sortir. Je vais choisir la paix pour moi au lieu de cela, au lieu d'entrer là-dedans. Et donc je suis libre. Quand je fais ça, j'exprime ma liberté par rapport à tout ce qui peut me faire sortir de la paix. Donc je suis libre de choisir la paix, en vérité, à chaque moment où je peux juger. Et ça, c'est ma déclaration d'indépendance. Parfois, ça demande des années d'entraînement, ou parfois, ça peut se faire en un claquement de doigts. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que j'ai toujours le choix. Et je ne suis jamais victime. Et si je pense que je n'ai pas le choix, alors... j'ai une pensée de victimisation. J'ai une pensée que c'est l'extérieur qui agit sur moi. Et moi, je n'ai aucun moyen de changer ça. Tout se passe dans mon esprit. À l'extérieur de mon esprit, il n'y a rien. Rien du tout. À l'intérieur de mon esprit pur, il n'y a pas de monde. Il n'y a rien. Je suis Dieu. Il y a tout ce qui se passe à l'extérieur est simplement des pensées que je projette. Donc, je peux laisser les autres tranquilles. Hein, à partir de ce moment-là, les autres sont innocents. Et puis, je peux commencer à m'occuper de ce que je projette à l'extérieur. Voilà, à partir de cette réflexion-là sur à quel moment le jugement, la guerre, je déclare la guerre à quoi que ce soit, à quel moment ça se produit en moi, alors il y a comme en cascade une série d'effets qui peuvent arriver. Une série d'effets qui ont pour conséquence, je choisis la paix. Et si je choisis la paix, hein, qu'est-ce qu'elle disait la leçon ? Je recevrai ce que je demande. Ça veut dire que je la demande, la paix. Et à partir de ce moment-là, comme je la choisis, il n'y a que ça. Donc je la reçois. Je la reçois, puisqu'il n'y a pas dans mon esprit, tous mes choix divins profonds sont honorés. Tous ceux qui ne proviennent pas de l'ego, hein, sont honorés. Et puis, c'est les seuls qui sont réels, hein, ces choix-là. Donc quand je choisis la paix, je choisis également l'amour, je choisis également la liberté, je choisis également la joie et la félicité. Et donc tout ça, je les reconnais pour mien à partir de ce moment-là. Voilà, merci l'esprit hein, d'avoir guidé ma parole. C'était parti d'une toute petite graine que j'ai laissée se développer au fur et à mesure. J'ai parlé.
Ce dont nous parlons ici peut paraître par moments très étranger, très loin de notre quotidien, de ce qui nous semble nous arriver dans notre vie, devant des problèmes apparents, des difficultés, des envies que nous avons. En fait, il y a une notion fondamentale qui est indispensable, en fait. C'est cette notion de responsabilité. C'est difficile, souvent, parce que nous semblons croire que la responsabilité consiste à devoir faire quelque chose, et donc, on peut échouer. Le cours en miracle nous dit « tu n'as rien besoin de faire ». Pourquoi ? Parce que tu es infini, tu es Dieu lui-même qui s'exprime comme un rayon de soleil qui émane du soleil, il rayonne, c'est tout, c'est sa nature, il fait rien, il est rayon de soleil. Et nous, nous sommes lumière. Nous sommes la vie. C'est pour ça que Jésus disait, je suis la voie, la vérité, la vie. Et donc la notion de responsabilité, c'est la notion, c'est, ça veut dire je suis cause, je suis la cause de mon expérience, c'est moi qui ai choisi. Seulement j'ai choisi une expérience qui, je me suis amusé à la séparation, donc à imaginer ça. Et tout est fait pour justement me faire semblant, me donner l'illusion que c'est pas moi. Puisque je suis séparé, donc il y a un monde extérieur qui n'est pas moi, donc il me manque quelque chose si je suis tout. Donc forcément cette vision de séparation, c'est pas du tout qui je suis, puisque je suis tout, puisqu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Donc je commence à comprendre que c'est très bien si je suis heureux dans ma vie, bon ben voilà, ok, je vis une vie humaine, et puis je m'amuse, je suis content, ben, pas de problème. Tôt ou tard, il y a une difficulté qui arrive, il y a une angoisse, il y a une peur, il y a une culpabilité qui vient. C'est ça dont nous parlons. C'est pas pour la créer, la culpabilité, c'est pas pour dire personne n'a envie d'être coupable, personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'avoir peur. Simplement, nous observons que cela se passe. Et il y a une raison. C'est justement ce jeu que j'ai choisi, que nous avons choisi de la séparation. Mais j'en suis responsable. Et le fait d'accueillir cette responsabilité devient fondamental pour pouvoir sortir de cette prison imaginaire. Parce que si je continue à penser que cette prison, c'est les autres qui me l'imposent, ou c'est même Dieu qui, dans ses caprices, parce que c'est à peu près comme ça, hein, même si c'est pas dit comme ça, mais je fabrique un Dieu terrifiant, un Dieu vengeur qui demande des comptes, c'est affolant, mais c'est pas Dieu ça. Ce n'est qu'amour, un amour infini, ce n'est qu'accueil. Cela est, c'est le vivant, c'est qui nous sommes. Et donc, ce qui nous sommes s'amuse. Et donc, je vais donc à la source, et c'est moi le responsable, cette responsabilité, c'est moi le responsable de mon expérience. Et tant que je n'ai pas accueilli ça, si je me sens victime du monde que je vois, j'en sors jamais. Parce que je perpétue cette croyance, puisque je suis créateur. C'est parce que je suis tout ce qui est, parce qu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est, c'est l'esprit qui ne s'oppose jamais à lui-même. Si j'ai la croyance à la séparation, si je perpétue cette croyance, ben, je vis à séparation. C'est pour ça que le courant miracle nous dit, il n'y a pas de pensée stérile. En anglais, c'est « there is no idle thought ». Il n'y a pas de pensée stérile. Une pensée produit toujours un effet. Et l'effet est réel pour le penseur. Voyons ça. Je vois cette planète sur laquelle nous sommes 7 milliards. Ce chaos, ces douleurs, ces cris. Il y a aussi beaucoup de belles choses, puisque évidemment nous sommes amour. Donc il y a des choses merveilleuses. Et chacun se ressent dans son cœur cette envie d'exprimer l'amour, de partager, de donner. Et en même temps, tant qu'il y a cette croyance à la séparation, il y a comportement égotique, donc avec peur et avec culpabilité. Culpabilité par rapport au passé, peur par rapport au futur. Et ça, c'est l'enfer. Pour en sortir, j'ai besoin d'en prendre la responsabilité, de dire, mais oui, mais c'est moi qui me crée ça. Et c'est ça qui va me permettre d'en sortir, parce que, puisque c'est moi le créateur, alors d'accord, j'ai oublié, mais je vais demander à moi, à l'esprit que je suis, la réalité, de me remontrer qui je suis. Et quand je prends la responsabilité de mon expérience, c'est un pas absolument fondamental, parce que je cesse d'être victime de l'extérieur apparent. Il n'y a pas d'extérieur, mais je me suis imaginé un extérieur. Donc je prends la pleine responsabilité de cette imagination d'un extérieur, cette imagination d'être séparé. Et je l'ai fait d'ailleurs, cette imagination, avec une puissance incroyable. Encore une fois, avec deux éléments fondamentaux, c'est la croyance au corps, que je suis un corps séparé des autres corps qui se balade comme ça sur une planète, Et également, le deuxième élément, c'est le temps linéaire. Ça donne l'impression que mes pensées n'ont pas d'effet. En fait, c'est moi qui crée tout ça, puisque le temps n'existe pas. Donc c'est moi. Donc on peut dire que c'est Dieu qui s'expérimente lui-même, qui s'amuse avec un milliard de facettes, dont le petit personnage que je semble être est une facette. C'est tout. C'est des façons de parler, bien sûr. Parce que nous parlons ici de non-dualité, nous parlons d'éveil, d'amour inconditionnel, de peur, de culpabilité, mais qu'est-ce qui nous relie tous? Cette expérience humaine, c'est l'identification à un corps précis, particulier, homme ou femme, avec une vie qui semble se dérouler dans un temps linéaire. Il y a naissance du corps, il y a l'petit enfant, le développement, toutes les expériences. Et puis finalement, le corps meurt, comme on dit dans notre langage. Il y a mort. Mais évidemment, il y a identification au corps et donc il y a disparition. Et ça, c'est terrifiant. Terrifiant avec la pensée qu'on est le corps physique. C'est tellement terrifiant qu'on va inventer un tas de choses pour essayer de se sécuriser, de vivre tant bien que mal. Donc on invente des choses, on invente des après-morts, on imagine un dieu qui va juger, alors on essaie de le contenter, donc on va faire des sacrifices, on va faire des martyrs, on va essayer de contenter Dieu, de bien souffrir tellement on a peur de pas être élu, de ne pas être choisi, de ne pas être un peu récompensé après cette mort. Alors qu'il n'y a pas de mort, il n'y a que Dieu. Mais je suis responsable de cette expérience de séparation où je semble vraiment être un corps physique séparé du reste. Donc je semble vraiment être victime et je semble vraiment être soumis à un monde hostile, à des choses qui me dépasse, comme la nature, je peux être électrocuté, recevoir la foudre, je peux recevoir plein de choses comme ça. Et en fait, je commence enfin à comprendre qu'il est temps que je prenne la pleine responsabilité de mon expérience, parce que Dieu est tout ce qui est, il n'y a que Dieu. Et que si nous sommes ici en train de parler comme ça, ici chez Avi, que vous êtes en train d'écouter ces paroles sur votre ordinateur ou ailleurs, je ne sais pas, mais ça vient d'où ça? Bien sûr, c'est imaginé, mais ça paraît réel. C'est un jeu extraordinairement complexe, cosmique. C'est-à-dire que non seulement il y a la planète Terre, mais il y a tout l'univers qui joue ce jeu. Et le but du jeu au départ, c'est la séparation. C'est s'amuser, et si nous n'étions pas qui nous sommes. Et le but du jeu, c'est justement de retrouver qui nous sommes. Donc il y a un jeu, on s'amuse à sortir, on s'amuse à s'imaginer, et puis on revient. Et on dit, mais c'est ça que je veux, c'est vraiment, avant toute chose, je veux voir la vérité. Avant toute chose, je veux voir qui je suis. Je veux retrouver cette magnificence, cette joie incroyable de ressentir l'amour. Donc je prends la pleine responsabilité de mon expérience. Donc, quand je suis face à des frères et des sœurs qui sont là, avec des opinions différentes, qui peuvent me rejeter, qui peuvent avoir des clivages religieux, des haines, des difficultés, des choses. Et quand on regarde le monde, c'est incroyable. Nous revenons d'Israël, là, c'est extraordinaire. Crayon dit que Israël, c'est un petit peu le pouls de la planète. Un petit peu le pouls. Et on s'aperçoit qu'effectivement, si on reste avec la croyance que la séparation est réelle, qu'on a vraiment des problèmes, mais c'est infernal. On a l'impression que la planète va sauter. Et effectivement, c'est vrai. Le monde de l'ego n'a aucune solution, mais aucune. Puisque sans cesse, il refait de la séparation, donc de l'illusion, donc de la peur, de la culpabilité, de l'attaque, de la défense, des guerres, des situations invraisemblables, des morts, des décrépitudes, et finalement un enfer. Et c'est vraiment ça. Donc on regarde en face. C'est ce que nous faisons de plus en plus les uns les autres. On n'est plus qu'observateurs, comme disait tout à l'heure Avi, observateurs d'un monde qui paraît complètement chaotique, absurde, insensé, un monde à l'envers, un monde qui peut à des moments nous désespérer, Et l'invitation, c'est de rester le plus calme possible. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est que paix. La réalité n'est que paix absolue. Liberté, égalité, fraternité. Le cours miracle dit par exemple « God is freedom » en anglais, hein, puisque le cours est en anglais au départ. Dieu est liberté. C'est une liberté totale, absolue. Il n'y a aucune limite. Et égalité, tout est un, puisque tout est un, donc tout est égaux, tout est égal. Il n'y a pas un qui est plus qu'un autre. C'est ce que dit Jésus sans cesse en disant « Mais moi j'ai rien que vous n'avez pas ». Son message n'a pas été compris il y a 2000 ans. On a mis... Puis 2000 ans après, on s'aperçoit que c'est encore difficile. Et ce dont nous parlons ici, c'est encore très peu compris. Et souvent, ça peut faire venir des colères, des attaques, des violences. Non, mais c'est trop facile, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus ceci, cela. Effectivement, la confiance, c'est pas rien. Ce dont nous parlons ici, c'est pas rien. Et c'est l'expérience de ce dont nous parlons qui commence à donner une réalité à ce dont nous parlons. C'est ce que dit, encore une fois, dans l'introduction du livre d'exercice pour étudiants du cours en miracle, en disant, il y a des idées qui peuvent vous paraître surprenantes ici, auxquelles vous pouvez vous opposer. Simplement, il vous est demandé de ne pas fermer la porte, et puis de pratiquer, c'est-à-dire d'essayer de vivre, d'essayer d'observer, de comprendre, de vous laisser imbiber par l'esprit qui vous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et c'est l'expérience qui va vous montrer que ça a une réalité. Et nous savons très bien que nous parlons ainsi puisque nous faisons tous une expérience. C'est notre cœur qui comprend ça. La tête, le mental est une aide aussi. C'est parce que c'est logique. Qu'est-ce qui est logique ? C'est ces deux systèmes de pensée, un système de pensée sur la séparation et un autre qui est basé sur la non-séparation. C'est très logique. Et le cours nous dit, effectivement, le système de pensée de l'ego, il est extrêmement logique. Ce monde repose sur la séparation, qui est impossible. Dieu est tout ce qui est. Le système de pensée de Saint-Esprit est aussi extrêmement logique, mais repose sur la vérité. Dieu est tout ce qui est. Tandis que le système de l'ego repose sur le mensonge. Dieu n'est pas tout ce qui est. C'est pour ça que, et là on le dit, mais avec amour, sans critiquer du tout, quand une religion vous propose d'atteindre un Dieu à l'extérieur, c'est une construction humaine. Il n'y a pas de Dieu à atteindre en extérieur. C'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans. Le royaume est en vous. N'allez pas le chercher. On vous dira qu'il est ici et là, sur une montagne, dans un temple, dans une certaine église. Non, le royaume est en vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on... Il n'y a pas des constructions humaines qui aident. On va faire des églises, on va faire des lieux de rassemblement. Bien sûr, tout est une aide. Tout est une aide. Y compris les religions, d'ailleurs, parce que c'est utilisé par l'esprit. Il ne s'agit pas de rejeter quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de rejeter quoi que ce soit. Quand on observe le monde de l'ego, on l'observe, on a choisi ce monde de l'ego. Et c'est ce monde de l'ego qui est utilisé par l'esprit. Seulement, je prends la pleine responsabilité de mon expérience. C'est moi qui ai choisi. Et moi, en tant que Christ, en tant que être divin, qui s'amuse à imaginer la séparation, qui est impossible. Parce qu'il n'y a que l'amour. Donc pour vraiment me sortir de ce guépier, de cette prison, je n'ai plus qu'une chose à faire. C'est vivre qui je suis, ce que je suis. C'est-à-dire vivre l'amour inconditionnel. C'est ce que disait Jésus avec les deux fameux commandements qu'il y a même dans la Bible. Tu aimeras ton Dieu comme ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu. Donc si tu fais un Dieu de l'argent, un Dieu d'une relation, un Dieu de je ne sais pas quoi, ça ne va pas, c'est la séparation. Donc le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Enfin bref, une façon de l'exprimer. Et le deuxième, qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as choisi une expérience humaine dans laquelle tu as l'occasion d'avoir des relations avec des gens apparemment séparés de toi, des frères et des sœurs, et c'est par l'amour entre ces frères et sœurs, mais vraiment l'amour inconditionnel, c'est là que tu vas faire l'expérience de qui tu es et retrouver qui tu es. Et évidemment, ça suppose un amour totalement inconditionnel, sans aucun jugement. Et là, on touche à quelque chose, et je sens l'énergie en moi en en parlant. Et là, c'est pas rien, c'est que j'accueille mes frères et sœurs dans un amour inconditionnel, comme fait Dieu, Dieu que nous sommes. C'est-à-dire que, quelles que soient les croyances religieuses, politiques, tout ce qu'on veut, quelles que soient les colères, les oppositions, les désirs de vengeance, de se sécuriser, de prendre, de sécuriser, d'exterminer même des parties de la population, comme on voit, eh bien, je suis en accueil. J'arrête tous les jugements. Et c'est par cela que le ciel vient sur la terre. C'est pas par autre chose. Et nous sommes encore peu nombreux à parler comme ça. Et en même temps, tout le monde sait de ce dont on parle. Pourquoi ? Parce que nous sommes la lumière du monde, tous, les 7 milliards que nous sommes. Parce que nous sommes qui nous sommes. Nous sommes Dieu qui s'exprime, le vivant, la vie. Rien d'autre. Donc nous sommes l'amour. Rien d'autre. C'est ça le pardon. C'est voir que tout est un. Le courant miracle appelle, dit, tout ce que tu as à faire, c'est accepter ce qu'on a traduit par l'expiation pour toi-même, c'est-à-dire la vision que tout est un, l'accepter pour toi-même. Et l'accepter pour moi-même, c'est l'accepter pour tout le monde, parce que si je vois que tout est un, ben, tout est un. Donc, tous mes frères et sœurs sont là avec moi dans cette unité. Et donc, j'ai à convertir personne. Pas la peine d'aller essayer de changer les pensées des autres, parce que si je fais ça, je fais de la séparation. Et donc, cet amour inconditionnel, c'est vraiment la clé, et c'est puissant. Et effectivement, la plupart de mes frères et sœurs, c'est vrai, pour le moment, ne comprennent pas ça. Et on en a vu d'ailleurs, qu'on le voit ici en France, dans n'importe quel pays, on l'a vu beaucoup en Israël. Et en même temps, on voit partout, il suffit de descendre dans la rue, que naturellement, mais quand on arrive avec un sourire, il y a un sourire qui répond. Quand on tend la main, il y a une main qui se tend. Et on est là à dire, mais on est heureux d'être ensemble, de se parler, de manger ensemble, de s'écouter les uns les autres de plus en plus, de se regarder dans les yeux, d'avoir des expériences d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que de plus en plus, nous vivons un état d'amoureuseté. C'est une façon de parler, bien sûr, qui est un état d'accueil total dans l'instant. Ça veut dire, ce qui s'est passé avant, on ne peut pas le changer. C'est comme ça. Ce qui semble s'être passé avant, c'est comme ça. Parce que le passé, c'est toujours imaginé dans l'instant. Et puis ce qui semble, qui va se produire dans le futur, je ne sais pas ce que c'est. Mais dans cet instant présent, maintenant, je choisis l'amour. Et donc, je demande de l'aide à qui je suis, à moi-même, avec un M majuscule. Je demande de l'aide pour voir avec les yeux de l'amour. C'est-à-dire avec les yeux de Dieu, et comme il n'y a rien d'autre que Dieu, il n'y a que les yeux de Dieu. C'est pour ça que tout est une question de vision. Et comme dit le courant miracle, avant toute chose, je veux voir les choses différemment. Avant toute chose, je veux voir les choses en vérité, avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'amour inconditionnel. Et ça ne concerne que moi. Je ne m'occupe pas des croyances des autres. Je n'ai personne à convaincre. Je n'ai personne à convertir. Je n'ai que à m'occuper de ma propre vision intérieure. Qu'est-ce que je choisis maintenant ? Parce que c'est toujours maintenant. Est-ce que je choisis la peur, la séparation, la culpabilité, la honte, le besoin de prendre ? D'accord, ok, j'ai ces notions-là, je les ai. Je me sens coupable, peut-être. J'ai envie d'acquérir des biens physiques, peut-être. J'ai envie de me sécuriser avec ceci ou cela, peut-être. Mais en vérité, qu'est-ce que je choisis profondément ? Je choisis d'aimer. Je choisis d'accueillir. Je choisis le sourire, de regarder dans les yeux. Je choisis l'amour. Je choisis l'amour maintenant. C'est toujours maintenant. C'est toujours maintenant. Et donc le message est extrêmement simple, puisque c'est toujours maintenant. C'est toujours une attitude intérieure, maintenant. Après ça, je vais faire l'expérience d'avoir une certaine guidance, dire tiens, j'ai envie de faire ceci, de téléphoner à un tel, ou au contraire d'aller dormir, ou d'arrêter tel projet. Ou... Bon. Mais maintenant, je vis que l'instant maintenant. Donc, l'apprentissage dont parle le courant miracle, c'est simplement, au fond, un désapprentissage de fausses croyances. Parce que le message, c'est extrêmement simple, c'est maintenant, ben, je ne sais rien, j'arrête de prendre la place de l'esprit, j'arrête de prétendre savoir quoi que ce soit, je mets mon cœur au service de l'amour, c'est tout. Mais mon cœur, c'est qui je suis, mais j'ai oublié ça. Alors ça, évidemment, qu'on soit homme, femme, enfant, adulte, vieillard, ça n'a aucune importance, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'on va dire, par exemple, qu'un maître choisit toujours la même chose. Et qu'est-ce que ce maître choisit toujours? Bien sûr, c'est une façon de parler. Chacun va employer des mots différents pour le dire, mais il choisit l'accueil. J'aime bien aussi citer cette phrase. L'ego analyse, l'esprit accueille ou accepte, c'est pareil. L'ego analyse, ce qui n'a rien de mal, seulement ça sépare. Et voilà, ça fait partie d'un jeu, ça fait partie de ce jeu de la séparation. Très bien, il n'a rien de mal, c'est un jeu. Mais l'esprit accueille, accepte. Donc j'accueille tous mes frères et sœurs. J'accueille tout ce monde. Nous venons d'Israël. Et qu'est-ce que nous avons vu? Effectivement, des situations... On a vu beaucoup d'amour, on a vu aussi des situations difficiles, mais on a surtout été dans des lieux où nous avons fait silence. Au milieu d'une foule de touristes, de pèlerinages, avec des croyances dans tous les sens, de toutes les nations du monde qui étaient là, avec des choses qui sont véhiculées, avec des textes qui se contredisent, dans des endroits où finalement on s'aperçoit que ces endroits sont inventés, c'est pas vraiment là que ça s'est passé. Aucune importance. Aucune importance. Qu'est-ce que nous avons fait? Être présent, avec effectivement aussi une dynamique de groupe qui nous a fait travailler sur nous-mêmes, dans des situations très concrètes d'instant en instant. Et on a appris. Et qu'est-ce que nous avons fait? On a effectivement progressé dans un accueil plus profond de l'instant présent. C'est-à-dire être davantage dans l'amour et accueillir cette planète, toute cette tension, toute cette violence et en même temps ces actes d'amour incroyables, tout ça, accueillir tout ça, c'est tout. Alors c'est vrai que nous avons été guidés là-bas et qu'il y a eu un travail qui s'est fait à travers nous. Un travail de récupération d'énergie profonde qui était enfouie depuis longtemps, c'est vrai. Mais le vrai travail, c'est un travail sur nous-mêmes. Le vrai travail, c'est un travail sur nous-mêmes. Et le travail sur nous-mêmes, c'est un travail d'ouverture dans l'instant présent. Une ouverture de cœur.
Alors, je me sens assez guidé à parler du moment présent. Comme dit quelqu'un, le présent, c'est un cadeau à s'offrir. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Mais au-delà de ça, qui est une phrase qui est belle à entendre, au-delà de ça, ce qui se passe dans l'instant, c'est la seule chose qui pour nous existe. Et si je me centre sur ce qui se passe, et c'est-à-dire je constate ce qui se passe, je ne fais pas appel à mon mental. Et c'est dans le mental qui est beaucoup le siège de l'ego que naissent les attentes et que naissent les peurs. Et les peurs peuvent être liées aux mémoires du passé, peuvent être liées aux anticipations du futur. Mais si je suis dans l'instant que je vis maintenant, tout le temps, c'est pour ça que Eckhart Tolle appelle ça le pouvoir du moment présent. Si je suis dedans, vigilant à rester dedans, alors dans ce moment présent, il ne peut pas y avoir de peur. La peur est toujours connectée à un processus mental qui m'extrait du présent. Et donc la méditation, c'est cultiver l'art d'être présent tout le temps, ou de plus en plus. Alors, il n'y a pas de perfection à atteindre, et c'est toujours un exercice, c'est-à-dire qu'on y arrive plus ou moins. Et parfois les pensées nous rattrapent, et parfois les attentes nous rattrapent. Mais il y a quelque chose qui se révèle à moi lorsque je suis complètement présent, qui est un état d'être qui n'existe que dans ce moment-là. Et qui est tellement paisible que je sens sa qualité, je sens qu'il me relie à toute l'existence. Et je sens qu'il n'y a aucune agitation dans cet état-là. Quelqu'un disait, le moment présent, c'est une porte vers l'éternité. C'est une porte vers le non-temps. Parce que tout se vit dans le maintenant. Il n'y a pas avant ni après dans le moment présent. Et s'échapper du temps de cette manière, c'est aussi s'échapper de toutes les limites liées au temps, de toutes les souffrances liées au temps, que ce soit des mémoires ou des attentes, les deux sont synonymes de limites et de souffrances. Alors j'essaye de vivre ma vie au présent. Parfois, il y a quand même des choses à prévoir, il y a des projets, mais je les fais tout simplement, je les fais maintenant. Je pense à, comme dit Eckhart Tolle, demain, 14h, place de la République, j'y pense maintenant. C'est du temps calendrier, c'est pratique. Je vais pas projeter les choses avec ce rendez-vous-là. Non. C'est je planifie et puis je reviens dans le maintenant. En vérité, je ne l'ai pas quitté, puisque je ne suis pas allé dans quelque chose de douloureux ou de souffrant ou de mental avec ça. Ou je dis, ben voilà, je prends un crédit, je vais payer ma maison sur 15 ans, mais je le fais maintenant. C'est tout à fait pratique. Et c'est pas une manière de s'échapper du moment présent. C'est ça là qui fait la différence. Puisque nous vivons quand même dans un temps qui semble linéaire, il y a des événements qui semblent être avant et d'autres qui semblent être après. Ça, je peux le constater, rester la plupart du temps dans ces moments qui sont les instants de ma vie. Et ma vie n'est qu'une succession d'instants que je vis l'un après l'autre en étant seulement dans cet instant-là. Et le moment qui est passé n'existe plus, et le moment qui n'est pas encore là n'existe pas encore, et donc il n'y en a qu'un seul. C'est l'éternel maintenant. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce maintenant-là, il y a une paix. Puisqu'il n'invoque pas l'ego, il n'invoque pas le mental. Ce qui se passe, je le constate, et puis ce que j'ai à faire, je le fais maintenant. Et je ne fais pas référence à quoi que ce soit qui ne soit pas relatif à ce maintenant-là. Alors en effet, c'est pour moi, c'est comme une porte dans le temps pour sortir du temps. Comme d'être témoin et vigilant, c'est une porte pour garder la paix et puis choisir la paix à chaque seconde en évitant le choix qui ne me convient pas, celui qui sort de la paix et qui choisit le conflit ou le jugement. Mais c'est très similaire, c'est très similaire. Je reste dans le moment présent, et ce moment présent-là ne peut pas être en conflit avec quoi que ce soit. Si j'imagine un conflit, c'est déjà que je suis sorti de ce qui se déroule devant moi, ce dont je suis témoin. Et quand je dis être vigilant pour surveiller une pensée d'attaque qui vient, une pensée de jugement qui vient, être vigilant, ça veut dire être simplement présent, être dans l'instant présent tout le temps. Sachant que la pensée d'attaque... Elle fait toujours référence à quelque chose qui est soit passé, soit futur. Si je n'ai pas la mémoire de ce que j'ai vécu, ou si je n'ai pas l'anticipation de ce que je vais vivre, ben, il n'y a aucun jugement possible, puisque le jugement fait référence à ces deux choses-là. Alors bien sûr, il n'y a pas de perfection et nous essayons de vivre le plus possible dans l'instant présent pour être le plus possible dans la paix. Il n'y a pas de recette miracle. Mais si je surveille mes pensées, que je reste dans ma paix, alors je suis beaucoup plus proche de l'unité que si je me laisse agiter par des pensées d'attaque. Et si je reste dans l'instant présent et que je goûte à cet éternel instant, cet éternel moment présent, j'ai aussi le goût du non-temps qui est une caractéristique de l'unité. Il n'y a pas de temps dans l'unité. Donc je vois progressivement que je fabrique le temps en sortant de l'instant présent par la pensée. Je le fabrique littéralement. Et lorsque je maintiens dans ma pensée l'instant d'avant, je fabrique aussi le passé. C'est une sorte d'attachement, de perpétuation de l'instant qui n'est plus. Mais je ne suis pas obligé. C'est aussi un choix que j'ai. Donc sortir des pensées de l'ego, c'est aussi, d'une certaine manière, sortir du temps. Et rester dans la paix en étant vigilant, c'est aussi rester dans l'instant présent. Donc c'est très relié, c'est très relié. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Voilà. C'est vraiment la question que je peux me poser en permanence. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? Puisque ce qui était avant n'a plus aucune importance. Et ce qui sera n'a pas besoin d'être anticipé. Si je pense que j'ai besoin d'anticiper ce qui sera, c'est que je ne fais pas confiance en ce qui est maintenant. C'est que je peux me sentir dans cette insécurité de l'instant qui va venir. Mais dans la paix qui se cultive par une absence de jugement, il y a une complète sécurité. Ça se cultive, hein. Nous nous rappelons la paix progressivement, mais nous sommes la paix. Nous n'avons pas besoin d'apprendre la paix, mais seulement de nous la rappeler. Et notre ego est une tentative d'oublier tout ça, d'oublier la paix, d'oublier l'harmonie, d'oublier l'égalité entre nous, en créant des différences. Bah, dès que je vois que l'ego c'est ça, bah, à cet instant même, l'ego cesse d'être. Puisque à cet instant-là, je suis au moment présent, sans juger non plus l'ego. Et donc l'ego n'a pas de prise, puisque l'ego fait référence au temps et au jugement. Entre autres. Donc je peux me rendre compte qu'en même temps que je fabrique le temps, je fabrique aussi la séparation en m'accrochant à ce qui s'est passé ou en anticipant ce qui sera. Et donc la lumière est seulement dans le moment présent. Et lorsque je me centre sur le moment présent, je me centre sur la lumière. Et dans le moment présent, il n'y a aucun ego et aucune peur. Alors bon, je me fais rattraper parfois par des pensées de peur ou des pensées qui me font quitter l'instant présent. Mais je suis libre d'y revenir le plus souvent et dès que j'en prends conscience. Donc je m'entraîne à ne pas donner prise à la séparation. Je m'entraîne à rester dans l'être que je suis, dans la lumière que je suis, et à ne pas céder à la tentation de penser autre chose que le moment présent où je ressens quelque chose, où je suis quelque chose. Tout ce qui est autre n'a pas d'importance réelle, puisque c'est imaginé ou mémorisé. Mais ça n'est plus, ça n'existe pas. Alors j'ai l'intuition que cet état d'esprit-là, qui navigue d'instant en instant, c'est possible, y compris dans le monde agité qui nous entoure, c'est possible de le vivre à tout moment. Même en parlant à quelqu'un, même en étant dans son travail, même en étant dans les transports en commun, même en étant en relation. En vérité, ça peut devenir notre nature quand nous nous exerçons à ne pas le quitter ou à nous exercer à observer le moment où nous le quittons, exactement comme le moment où je quitte ma paix et finalement je choisis de rester dedans parce que dedans je me sens chez moi. Je n'ai pas besoin de sortir de chez moi. J'ai eu à un moment donné la volonté d'expérimenter de sortir de chez moi. Eh bien soit, je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai vécu des expériences douloureuses et souffrantes dans ma vie. Mais ce moment, je peux très bien dire, il a été et il est révolu. Et maintenant, je décide, je choisis que mon expérience se déroule dans le maintenant et seulement dans le maintenant. Et je conclus l'expérience de souffrance en disant ça. Je dis, elle m'a servi à quelque chose et maintenant elle est terminée. Elle n'est plus utile. Et elle n'a pas à être jugée, puisqu'elle m'a servi. Elle a eu un sens. Donc, voilà, et j'ai beaucoup de respect pour Eckhart Tolle, qui a su sentir la puissance du maintenant, de l'instant présent. Et c'est lui aussi qui le dit, lorsque vous entendez mes mots, sentez à quel point ils sont soutenus par un champ de conscience sous-jacent. Sentez le silence qui est entre les mots et qui soutient les mots, sur lesquels les mots sont posés. Ce champ de conscience, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est Dieu. Mais ce champ de conscience ne peut être perçu que dans la quiétude, que dans une vigilance dans l'instant présent. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi l'espace dans lequel les mots surviennent. Cet espace est la paix absolue. Si je goûte l'espace autant que les mots, alors je suis complètement présent. Il n'y a pas une pensée qui peut me faire sortir de cette conscience-là, d'écouter complètement, d'être présent complètement. Même si je ne le fais qu'une seule seconde, c'est déjà énorme. Parce que dans cette seconde, j'ai un goût, un aperçu de l'éternité. J'ai un aperçu de la quiétude de cet espace. J'ai un aperçu d'où je viens. Et je peux me centrer sur d'autres moments qui ont cette nature, qui ont ce goût. Parce que ce n'est qu'une décision que j'ai à prendre. Et comme je demande, je recevrai. Hein, je choisis de rester présent et vigilant à chaque instant. Et quand j'y arrive, j'en profite, hein, je le goûte, je me rappelle de qui je suis. Et quand je n'y arrive pas, eh bien je décide de revenir à ça pour la prochaine seconde de conscience que j'invite dans ma vie, sans me juger. Je suis venu expérimenter une limite, ça veut dire que je suis aussi venu expérimenter la non-perfection. C'est-à-dire parfois j'arrive à faire des choses en conscience et parfois je sombre dans ce qui semblerait être l'inconscience. Mais dès que je vois l'inconscience, la conscience n'est plus. Donc l'inconscience a pour rôle de me ramener à la conscience, dès que je l'observe. C'est-à-dire que je suis dans un moment sombre, et avec ma conscience, je l'éclaire. Donc il n'y a plus de sombre, il n'y a plus d'obscurité. Elle a disparu, elle s'est dissolue. Et toute mon expérience consiste à maintenir la lumière aussi longtemps que je peux et autant que je choisis de le faire jusqu'à ce que j'y réside en permanence. Et la qualité du silence qui est entre les mots, ce n'est pas quelque chose de vide, ce n'est pas quelque chose d'absent, ce n'est pas il n'y a pas de son, c'est un champ de conscience pure, une intelligence, c'est le vivant même, c'est Dieu. Parce que dans ce silence, il y a une présence infinie. Donc c'est tout le contraire d'un état vide. Je me réjouis d'avoir écouté moi-même tout ce qui a été prononcé par ma bouche.
Il y a un paradoxe qui est souvent abordé, c'est le fait que des mots sont dits et que les mots eux-mêmes disent que les mots n'ont pas d'importance. Et par exemple maintenant, ce qui se passe, il y a des mots qui sont prononcés, enregistrés, et vous qui écoutez cet enregistrement, en réalité, vous pouvez oublier complètement les mots parce que les mots servent à quoi? Les mots sont comme toute forme dans ce monde. Ils sont utilisés par l'esprit pour nous rappeler qui nous sommes. Et donc c'est au-delà des mots. C'est une vision intérieure. C'est pour ça qu'on parle de silence, de respirer, de prendre son temps, d'accueillir l'instant présent avec, ben, je ne sais pas, j'ai peut-être des peurs, des émotions que je qualifierais des positives, de négatives, des jugements qui viennent, des impressions d'avoir des choses à régler, des problèmes multiples, Dieu sait si on m'a appris ça depuis que je suis tout petit. Régler les problèmes, des problèmes à n'en plus finir, on en crée sans cesse d'autres. Il y en a un qui est réglé, il y en a 10 autres qui arrivent, etc. Voilà. Et on parle de silence, de méditation, de respiration, de lâcher prise. Donc ça semble tout à fait paradoxal. Eh bien oui. Eh oui. C'est vraiment le silence, l'accueil de l'instant, le lâcher prise. Tout cela va conduire à une action beaucoup plus juste. L'état d'esprit a changé. Donc, on n'a rien à apprendre, on n'a rien à retenir, et on arrive à la confiance. Pourquoi ? À cause de qui nous sommes. Parce que nous sommes qui nous sommes le vivant, comme on disait tout à l'heure, la voie, la vérité, la vie, il n'y a que Dieu et tout ce qui est, et donc tout va bien. Tout va bien, malgré le fait que tout semble aller mal, ou que beaucoup de choses semblent aller mal. Et c'est vraiment par cette clé-là, par cette clé de tout va bien, je respire dans l'instant présent, je me détends autant que je peux, je m'arrête et je laisse venir ce qui vient, dont j'ai confiance. Et cette confiance-là, le monde de l'ego, de la séparation parle de confiance, mais c'est pas de la confiance, c'est de la confiance conditionnelle. Mais ce dont nous parlons, et ce dont Dieu parle, c'est de la confiance inconditionnelle. Et vous pouvez remarquer que si vous le pratiquez vraiment, eh bien, avec des gens autour de vous, mettons, si vous ouvrez les yeux, eh bien, il n'y a plus personne, ou presque plus personne. Ce dont nous parlons ici, c'est encore peu compris, peu admis. Il y a toujours, oui, mais quand même, il y a des limites, faut faire attention, c'est dangereux. Eh bien non. Les limites n'existent pas. Le danger n'existe pas. À cause de qui nous sommes. Bon, c'est ça la confiance. Et ça, c'est notre affaire. Je veux dire, c'est l'affaire de la lumière que nous sommes. Nous devenons ce message de confiance. Comme disait Yeshua avant notre départ en Israël, nous devenons la diffusion même de la lumière. Et ça ne se raisonne pas. Ça s'accueille dans l'instant. Au-delà de toute explication, de toute rationalisation, c'est simplement une ouverture à l'amour. J'accueille tous mes frères et sœurs dans mon cœur, là, quelles que soient leurs opinions, leurs croyances, et je m'aperçois que nous sommes appelés à regarder vraiment cela en face, regarder ce monde tel qu'il apparaît, ne pas nous en détourner, ne pas faire semblant, parce que c'est en justement lui souriant, en l'accueillant, que les peurs du monde sont transcendées, sont transmutées. Donc en se réjouissant, en s'amusant, en profitant de la vie. Apparemment, nous semblons un peu sérieux ici, mais en réalité, on est invité à faire la fête, à rire. Pourquoi ? Parce qu'à cause de qui nous sommes, n'y a aucun problème. Et c'est justement cette démonstration que nous sommes amenés à faire maintenant, c'est à rire, danser, nous amuser dans la confiance des petits-enfants. Et à ce moment-là, il y a des miracles qui se passent partout. On en fait l'expérience. Alors pour le dire, on paraît un peu sérieux, mais vraiment, vraiment, et c'est vrai, à cause de qui nous sommes, vraiment. Tout ça, c'est une bonne blague cosmique. Tout va bien. Tout va bien. Et on respire ensemble, on se donne la main, et puis on sent que d'autres frères et sœurs s'ouvrent à ce dont nous parlons ici, ce que de plus en plus sur cette planète. Et nous disons oui, oui vraiment à la vérité, à l'amour que nous sommes, à la lumière que nous sommes, et que tout le monde est, je parle des 7 milliards que nous sommes, en apparence sur cette planète, sans aucune exception. Dieu est tout ce qui est, il n'y a rien d'autre. Tout est lumière. L'obscurité n'est simplement imaginée, elle n'existe pas. C'est apparemment l'absence de lumière, mais comme tout est lumière, il n'y a pas d'obscurité. Malgré les apparences, qui sont effectivement très bien faites.
Voilà, sur ces paroles, tout va bien. Je vais sonner la fin officielle de ce groupe. Avec un gong, et je me réjouis de vous retrouver à l'occasion d'un prochain partage.